Bonsoir, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. Le couloir humanitaire est désormais ouvert dans la région de Goma, permettant l'acheminement d'aide essentielle aux populations dans les besoins, a annoncé samedi 15 février le ministre de la Santé publique sur son compte X. Selon Roger Kemba, l'OMS a obtenu un accord pour acheminer du matériel via Nairobi et Kigali. Pendant ce temps, le programme alimentaire mondial a alerté sur la situation humanitaire préoccupante dans la partie est de la RDC, ce qui est exacerbé aussi par des scènes de pillage visant certains de ses entrepôts à Goma il y a deux semaines, puis à Bukavu le week-end dernier. Face à cette crise, les acteurs internationaux, y compris les Nations Unies et les organisations humanitaires, appellent à une mobilisation immédiate pour éviter une catastrophe humanitaire d'ampleur. Que faire pour éviter justement cette catastrophe humanitaire dans cette partie de la RDC? Pour en parler, je reçois dans cette émission Dr Augustin Kapika, directeur pays de l'ONG Action Communautaire pour le Développement Intégré et la Protection de l'Environnement. Dr Kapika, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Patient Bashombe Matabishi, coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Patient Bashombe, bonsoir.
Bonsoir, madame. Je voudrais saluer mes co-débatteurs, mais également tous ceux qui nous suivent en ligne.
Il va nous rejoindre peut-être dans un tout petit moment, Dr Alain Boko Ieti, secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Vous nous suivez sur la 103.0 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur DSTV canal 867. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
En Nord Kivu, la réintégration des retournés dans leur village d'origine pose de sérieux problèmes. Il s'agit de ceux des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. La plupart d'entre eux ont retrouvé leurs habitations détruites. À cela s'ajoutent les nombreux conflits fonciers relatifs à la propriété des champs agricoles. La quasi-totalité des sites des déplacés autour de Goma ont été détruits et vidés de leurs occupants depuis près de deux semaines maintenant. C'est en exécution de l'ultimatum donné par les rebelles aux déplacés de vider les sites. Gloria Lutula pour le reportage.
Hélène Kavira, veuve et mère de quatre enfants, est arrivée il y a une semaine dans son village du groupement Bukombo, territoire de Rutshuru. Sur place, elle déclare n'avoir rien retrouvé. Ma maison est complètement détruite. Je suis sous-logée par un familier. Quand je tente de reprendre avec mes activités champêtres, mon champ est occupé par des personnes inconnues qui y cultivent le maïs et le manioc. Je n'ai donc pas accès à mon champ. La situation de cette femme illustre la réintégration difficile pour la majorité des retournés dans cette région. C'est une des conséquences de leur séjour prolongé de deux ans ou plus dans les sites des déplacés de Kanyarushinya. Quand ils ont fui à cette époque, les combats entre les FRDC et le M23. La situation est similaire pour d'autres retournés dans les territoires de Masisi qui déclarent également avoir tout perdu. L'accès à la nourriture est très limité pour ces familles retournées. Elles ne disposent ni des réserves alimentaires ni des moyens d'acheter de la nourriture. La quasi-totalité des cultures et réserves alimentaires ont été pillées par les groupes armés, plongeant les retournés dans une grande précarité. Visiblement, l'ultimatum lancé par les rebelles a été suivi des faits. La majorité des sites autour de Goma ont été démantelés. Des abris de fortune détruits. Les occupants n'ont plus d'autre choix. Ils se sentent obligés de retourner dans leur milieu d'origine, notamment dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Tout compte fait, les 18 sites autour de la ville de Goma sont actuellement vidés de leurs occupants.
Direction Bukavu, au sud Kivu, la situation humanitaire demeure critique. Les milliers de déplacés des territoires affectés par la progression des rebelles M23 soutenus par le Rwanda n'ont reçu ni assistance sanitaire ni abri, encore moins vivre et non vivre. Ronelly Tibonera pour le reportage.
Les territoires affectés sont Calais, Cabaré et peut-être bientôt à Longou, vers où les rebelles progressent depuis hier. Pour faire face à cette crise humanitaire de grande ampleur, OCHA est en train de monitorer la situation en vue de relancer les activités dans les 48 heures qui suivent. C'est ce que nous avons appris d'une source proche du Bureau des coordinations des agences du système des Nations Unies. Les besoins humanitaires dans la ville de Bukavu seront aussi pris en compte à la faveur de l'accalmie observée depuis hier. Bukavu n'a pas connu des affrontements croisés, mais les pillages à grande échelle qui s'y est déroulé amplifient la misère de la population. Nos sources ajoutent que la réouverture du port de Goma au trafic lacustre facilitera le humanitaire à reprendre les activités dans les endroits accessibles, notamment Idjoui et Tchoufi, et que de bateaux pourront ainsi quitter Bukavu pour Idjoui.
Merci René Lee, Passion Bachombé, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. La situation humanitaire reste très préoccupante dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, notamment à Goma et Bukavu. Avez-vous une idée sur une idée de l'ampleur réelle de la crise humanitaire dans ces deux provinces, Passion Bachombé?
Ah, merci beaucoup, madame. Je voudrais dire qu'effectivement, avec cette guerre, il y a une crise multidimensionnelle qui a déstabilisé et continue à déstabiliser, et ça sera pour longtemps cette partie du pays. Et donc, d'abord, vous avez parlé de la crise humanitaire. Effectivement, il y a un problème d'assistance pour des milliers de Congolais, non seulement des retournés, mais également ceux qui vivent à Goma, ceux qui vivent à Bukavu, ceux qui vivent dans tous ces milieux-là, où il y a eu pillage, où des compatriotes sont retournés dans leur milieu d'origine et qui n'ont plus retrouvé leur propriété. Et nous avons des informations qu'il y a beaucoup qui se retrouvent dans la brousse, après avoir perdu leur propriété, parce qu'ils ont trouvé des étrangers qui occupent leur maison et qui occupent leur champ. Donc, il est vraiment important que on puisse imaginer une assistance vraiment holistique et voir comment venir en assistance à ces milliers de familles, parce que la plupart ne savent plus subvenir à leurs besoins, et même sur le plan, je dirais, médical, il y a encore des problèmes sérieux, et nous attendons voir ce que ça va donner avec les ponts humanitaires qui a été prévu, qui est décidé. Voyons voir ce que ça va donner, mais en tout cas, la crise elle est immense quand vous regardez le nombre de populations qui sont en errance et qui doivent rentrer, et d'autres qui ne croient pas au message que le M23 donne pour pouvoir regagner leur résidence. Vous voyez qu'il y a une confusion, et c'est dans cette confusion là que la crise s'accentue davantage.
Alors, plusieurs ONG avaient demandé qu'un couloir humanitaire soit ouvert à Goma pour pouvoir acheminer le matériel aux populations qui en ont besoin. C'est fait selon le tweet du ministre de la Santé, Roger Kamba, qui a annoncé que l'OMS a obtenu un accord pour acheminer du matériel via Nairobi et Kigali. Il y a un auditeur qui nous écrit, David Wedi, qui nous écrit depuis Kitenge, dans la province du Sankuru. Il dit que le monde sait qu'il y a des tensions entre la RDC et le Rwanda. Or, les kits qui seront acheminés vont transiter par le Rwanda, pays qui agresse la RDC. Est-ce que ce n'est pas un danger?
Non, écoutez, pour nous, d'abord, il faut que l'assistance arrive à Goma, arrive à Bukavu, arrive partout où nécessaire. Parce que l'une des choses, c'est de récupérer les entités perdues, et l'autre chose, c'est de venir, n'est-ce pas, en assistance à toutes ces populations qui sont désemparées. Donc, nous avons fait les plaidoyers et je crois que vous avez suivi comment la société civile a mis en place un comité de crise pour la paix et la sécurité, pour pouvoir plaider au niveau régional, au niveau national, au niveau international, pour qu'il y ait des réponses vraiment d'envergure par rapport à cette crise multidimensionnelle qui est créée du fait de cette agression dont la RDC est victime.
Alors, vous êtes une plateforme de la société civile. Est-ce que vous avez, vous disposez des chiffres précis sur les nombres de personnes affectées et sur les besoins les plus urgents?
Non, madame, on n'a pas de chiffres exacts, mais ce que nous savons, c'est que des milliers de compatriotes, des millions d'abord, qui étaient à Goma, en errance, et qui étaient contraints de pouvoir, lorsqu'il y avait sifflement des balles, de pouvoir se cacher dans les maisons d'habitation des citoyens, ont dû regagner, que ce soit Rutshuru, que ce soit Masisi, un peu partout là, qui ont dû regagner leur domicile. Il y en a qui, aujourd'hui, sont dans la brousse, d'autres sont dans le parc, d'autres sont dans la forêt, et donc on ne sait pas identifier avec précision quel nombre. Quand vous descendez du côté de Minova, vous descendez du côté de Calais et j'en passe, donc il y en a d'autres qui sont arrivés jusque à Kabamba et la guerre les a retrouvés là-bas, ils sont obligés de retourner encore. Donc c'est vraiment une confusion et dans cette confusion on ne sait pas avec exactitude, on ne sait pas donner des chiffres, mais attendons voir. Lorsque les ponts qui viennent d'être créés sera effectif, on va peut-être savoir plus sur l'exactitude des personnes qui sont en besoin.
Docteur Augustin Kapika, directeur pays de l'ONG Action communautaire pour le développement intégré et la protection de l'environnement, comme je l'ai dit dans le sommaire, le couloir humanitaire désormais ouvert dans la région de Goma. C'est une annonce faite par le ministre de la Santé, Roger Ikamba, qui a aussi, par la même occasion, annoncé que l'OMS avait obtenu un accord pour acheminer du matériel via Nairobi et Kigali. Pensez-vous que l'ouverture de ce couloir humanitaire est une solution durable?
Bon, écoutez, madame, merci, madame, pour dans des actions humanitaires. Madame, dès qu'il y a un couloir, c'est toujours une bonne chose. Mais maintenant, c'est que de voir ce couloir.
On ne vous suit pas très bien, docteur. Augustin Kapika,
oui, est-ce que vous me suivez?
Ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant.
Ça va mieux.
Oui.
Non, parce que j'avais la main libre. Oui, madame, donc je disais que un couloir humanitaire a toujours été le bienvenu. Mais maintenant, celui qu'on ouvre en passant par Nairobi, Kigali, pour acheminer l'histoire dans le sud et nord Kivu, moi je trouve que il y a lieu. Étant donné que notre population est dans le choc, que de changer l'itinéraire, pourquoi ne pas passer avec Dar es Salaam? Par exemple, pourquoi si on doit choisir Nairobi et Kigali? C'est tout ça qui frustre un peu notre population. Et puis j'allais vous dire, madame, que sincèrement, le mot est faible quand on parle d'une crise humanitaire. Je vous dis que c'est déjà une catastrophe humanitaire, madame. Nous avons des rapports de terrain, déjà une catastrophe humanitaire. Imaginez-vous, madame, on a fait un peu de temps.
Ces rapports disent quoi? Est-ce que vous avez des chiffres, docteur Kapika? Vous estimez que c'est déjà une catastrophe? Avez-vous des chiffres?
Mais bien sûr, madame, déjà dans tout l'Est, nous parlions de plus de 5,1 million déplacés. Avant des grandes crises. Et maintenant, quand les gens sont ajoutés, c'était pour tout l'Est, bien sûr, Goma, lui seul, était dans de 3 millions, déjà. Et maintenant, on démantèle des camps et on renvoie tout le monde, brusquement. Madame, est-ce que vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'on a fait des aînés? Qu'est-ce qu'on a fait des personnes de troisième âge? Qu'est-ce qu'on a fait des femmes malades, des malades, comment ils sont rentrés? Madame, nous sommes tous vraiment dans le spectacle, vraiment. Nous nous regardons, nous ne savons plus quoi faire. Mais je vous dis, madame, que la crise, que je préfère la catastrophe humanitaire, sera tellement grande que nous ne saurons plus quoi faire. Ce qui nourrit la population, que ce soit de comment ou quoi, c'est là qu'on a gardé. Qui sont en train de rentrer, nous ne savons pas s'ils sont arrivés ou ils sont où. Et ils rentrent sans outil aratoire, ils n'ont plus de kitchen set, c'est-à-dire des ustensiles de la cuisine pour préparer, plus rien. Et leur maison, comme vous-même vous avez dit vous avez bien annoncé dans l'introduction, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien du tout. Mais ils vont rentrer, ils vont cultiver avec quoi? Et s'il y a un couloir humanitaire, c'est peut-être pour sauver ceux qui sont dans les hôpitaux, à Goma, dans les grandes villes et à Bukavu. Mais comment nous allons atteindre ceux qui sont sur le terrain et avec quels moyens? Ceux qui rentrent, par exemple, vers Massissi, vers Buito, parce que Routuru, tout le monde parle de Routuru, mais le secteur le plus difficile, c'est le secteur de Buito. Là, qui a été vidé, tout le monde était venu y rentrer dans cette colline-là. Comment nous allons de nouveau les atteindre? Comment nous allons organiser l'assistance pour que de nouveau nous puissions les joindre? Ça va prendre du temps. Et entre-temps, les gens vont continuer à mourir de maladies chez eux, de faim et de tout ce que vous voulez. En rentrant, ils n'ont plus de maison, ils vont encore occuper les quelques écoles qui sont dans leur milieu. Ils vont occuper quelques églises dans leur milieu. Donc, ils ne seront même pas chez eux. La crise va continuer. Donc, on a déplacé les camps pour remettre ça au niveau de l'intérieur là où ils étaient. Donc, madame, je vous jure que la situation n'est pas aussi simple que nous le pensons. Nous ne savons pas comment cela va se présenter, mais c'est vraiment déjà la catastrophe. Et vous imaginez-vous, au niveau de... On a connu la crise à Goma. Il y en a qui étaient en train de fuir pour aller à Bukavu. Et la crise les retrouve à Bukavu. Ils sont où, ceux-là? Madame, c'est un désordre indescriptible. J'apprends qu'au Tchad, avec votre... Mon collègue dit à Bukavu qui a reporté que Otia va bientôt reprendre le service au Goma. Moi, nous sommes curieux. Nous voulons bien voir comment ils peuvent réorganiser cette population qui est en débandage. Et madame, retenez qu'à part la population locale, toutes ces zones-là, à part les déplacés internes aussi, il y avait des réfugiés. Il y avait déjà des demandeurs d'asile. Et qu'est-ce que tout ce monde-là devient, madame? Donc, la situation est tellement compliquée que ce n'est pas aussi simple comme nous le pensons en disant que, bon, c'est une crise humanitaire.
Vous estimez donc, docteur Kapika, que la tâche ne sera pas facile pour les humanitaires?
Pas du tout, madame. Celui qui dit que c'est facile, vraiment, il va vous mentir. Ce serait une tâche très compliquée. C'est-à-dire, de moi, à mon avis, pour le moment... Dès qu'il y a couloir, on va essayer de calmer ce qui a calmé comme crise dans les grandes villes, dans les hôpitaux. Nos frères qui meurent là-bas, qui sont tombés, c'est pas moi, des balles à gauche et à droite, des fractures, c'est là qu'on peut sauver. Maintenant, comment nous allons nous organiser pour suivre ceux qui sont partis à l'intérieur, s'ils sont arrivés? Et à combien ils sont arrivés? Les mamans qui avaient des enfants au dos, vous avez vu, nous tous nous avons vu, ils ne pouvaient sauver que leur matelas et leur, bébé au dos, et bébé devant, et voilà, et ils marchaient. Et de nouveau, dans peu de temps, on les remet encore sous cette crise-là, toujours à pied, en train de rentrer. Est-ce qu'ils seront encore forts? Ils vont résister? Il y aura des vivants vraiment?
Merci, donc, madame, on vous garde encore dans cette émission, docteur Kapika. Pasteur Justin Matadi, qui nous suit sur la page Facebook de Radio Kapi, pense que la notion, la notion de droits humains dont les chefs des rebelles du M23. Merci à Yvon Tilaï qui nous suit. Voilà, vous êtes très nombreux. à suivre cette émission sur la page Facebook de Radio Okapi, Fiston Joseph, depuis Lubumbashi. Merci beaucoup. Il vient de nous rejoindre dans ce studio. Docteur Alain Boko, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale. Le ministre de la Santé a annoncé le week-end que désormais le couloir humanitaire était ouvert dans la région de Goma pour permettre l'acheminement d'aide essentielle aux populations qui sont dans les besoins. D'abord, c'était le Nord Kivu, aujourd'hui, c'est Bukavu, c'était Goma, aujourd'hui, c'est Bukavu aussi qui est affecté par cette crise humanitaire. Est-ce que vous avez une idée sur l'ampleur réelle de la crise humanitaire dans les villes de Goma et Bukavu?
Merci madame pour la question. Je m'excuse pour le retard. J'étais pris dans...
On comprend avec les embouteillages de Kinshasa.
La situation humanitaire est déplorable. Nous avions trois grands pôles autour de Goma. Il y avait plusieurs camps organisés et plusieurs une centaine de petits camps non organisés. Aujourd'hui, les affrontements ont fait que tous ces gens évalués à peu près 2 millions ont été repoussés. On ne sait pas les localiser. Le travail à faire, d'abord, c'est de faire une évaluation et de faire le profilage. Et ce travail qui devrait être fait, le gouvernement n'a pas encore accès. Deuxième volet, vous avez toute la population autour de Beni qui était là sans assistance depuis juin. Depuis avril 2004. On ne pouvait pas y aller aujourd'hui avec tout ce que nous avons. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est presque un million de déplacés. Vous avez aussi une autre population, je parle encore du Nord Kivu, qui était coincée, qui fuyait vers Sake et aujourd'hui et aussi. Donc la situation est déplorable. Nous devons, pour les humanitaires, la première chose, avant de parler des corridors humanitaires, la première chose, faire les évaluations. La deuxième chose, identifier les vrais besoins. L'humanitaire répond aux besoins prioritaires définis avec les populations concernées. Où a-t-on contacté ces populations pour définir leurs besoins? Ça, c'est d'autres éléments de correction.
Dans le contexte actuel, est-ce qu'on a le temps de faire tout ça, contacter la population?
On fait l'évaluation, on n'attend pas qu'on finisse. Voilà, nous avons identifié les gens ici, voici leurs besoins. Quand on fait les corridors humanitaires, il y a un travail de communication permanente avec les humanitaires qui, pour savoir qui a quoi, on peut le déployer où. Et après, il y a l'assistant lui-même et d'autres. C'est là où je disais que...
Est-ce que ce travail est en train de faire entre le gouvernement et les humanitaires?
Le travail est en train d'être fait. Je crois qu'il y avait une réunion entre notre ministre et le coordinateur humanitaire et OCHA. Il y a encore une autre réunion qui est prévue autour du premier ministre pour que on puisse identifier les ressources dont nous disposons pour qu'on sache où c'est en intérêt. Aujourd'hui, nous avons déployé une équipe vers Beni. Ça, c'est l'équipe du gouvernement coordonnée par le secrétaire général pour une première assistance et l'évaluation. On pourra avoir les premiers éléments, même imparfaits, mais qui nous permettent d'agir. Nous envisageons aussi, au cours de la réunion de la semaine prochaine, de définir la possibilité de faire les évaluations autour de Bukavu, si cela le permettra.
Alors, cette aide, comme l'a annoncé le ministre de la Santé, va passer par, sera acheminée via Nairobi et Kigali.
Bon, je ne connais pas les modalités. Il y a les assistants qui passent par d'autres pays sont parfois toxiques. Ça, je vous le dis, parce que quand on va déployer l'équipe, contenu, qui va vérifier, qui va certifier? Ce sont des questions que nous nous posons, mais si moi je parle en tant que technicien. Si je dis que en tant que secrétaire général, oui, nous devons coordonner. Quelle est la composition de qui? C'est toutes ces questions qui doivent être prises en charge. Je crois qu'il y a nécessité qu'il y ait harmonisation au sein du gouvernement entre le ministre de l'Intérieur, le ministre des Actions humanitaires, et d'autres, pour que quand il y a quelque chose, ça concerne tout le gouvernement et que ça engage le gouvernement.
Alors, on regarde encore dans cette émission le docteur Alain Bokoyeti, secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale. On retient que les choses sont en train de s'organiser au niveau de Kinshasa pour voir dans quelles mesures on pourrait assister les déplacés de Bukavu, si cela est possible, comme vous l'avez dit. Mais déjà, à Beni, il y a une équipe qui est sur le terrain.
Oui, oui. Ce que je voudrais dire, un élément, le gouvernement a, depuis fin décembre, demandé un plan d'urgence. Il a été discuté plusieurs fois au gouvernement. C'est ce plan-là qu'on met à la table, c'est un plan d'intervention qui concerne toutes les ressources possibles. Je crois qu'on en parle très peu dans les médias.
Alors, il y a un auditeur qui demande comment s'assurer que l'aide humanitaire va parvenir effectivement aux personnes qui en ont le plus besoin.
Dans notre procédure opérationnelle, quand les équipes arrivent, ils voient l'autorité locale. Ils désirent, ces experts, ils font une première évaluation et avec eux, ils vont sur terrain. Même s'il faut acheter les items, c'est avec eux. Comme ça, on peut dire, on a assisté combien de ménages, avec quoi, et on peut mettre ces informations à la portée de tous. C'est ce que nous essayons d'apporter comme réforme.
Il y a des mesures, des mécanismes de contrôle et de suivi pour éviter les détournements.
Parce que quand nous sommes partis, et le gouvernement est impliqué, ce n'est pas au gouvernement tout que nous remettons de l'argent. Il y a la société civile et toutes les organisations locales.
Merci. On va prendre ces nombreux auditeurs qui nous appellent sur le standard de Radio Capi pour donner leurs avis sur le sujet de ce soir. On va se rendre à Shabunda, dans la province du Sud Kivu, pour écouter cet auditeur.
Maître David Masandi Shabani. Depuis Shabunda au Sud Kivu. La solution ne viendra jamais à ces couloirs, qui est une mesure provisoire. Si la communauté internationale tient au peuple congolais, il est temps d'imposer les parties prenantes une négociation obligatoire et qui permettra à la population de jouir naturellement dans leur milieu habituel. En plus, les itinéraires ne rassurent d'aucun, car ce sont les pays ayant parrainé cette rébellion qui ont été choisis, d'où certaines ONG internationales jouent les jeux de l'ennemi et ne facilitent pas la tâche à débloquer cette crise. Accélérer la solution qu'est d'apporter une aide à cette population en désespoir. Dieu est à leur côté.
Patient Bachombe, comment vous réagissez au propos de cet auditeur qui nous a appelé depuis Shabunda au Sud Kivu?
Oui, j'ai suivi la question de M. Shabani Shabunda. Je voudrais dire d'abord qu'effectivement, l'humanitaire n'est jamais durable. Donc, on ne peut pas dire que c'est ça la solution qui va satisfaire les populations en détresse, pas du tout, mais c'est déjà un début de soulagement de leur souffrance. Et donc moi je pense que ce sont des mesures provisoires, mais qui permettent d'abord à obtenir une survie pour ces populations. Et donc il parle de négociations. Oui, les négociations doivent continuer pour pouvoir ouvrir carrément d'autres voies pour que les populations puissent accéder maintenant à leur économie et à pouvoir arriver dans une autre étape de relèvement. Donc, on ne va pas seulement rester à l'étape d'assistance, mais il faut arriver finalement au relèvement de ces communautés, et ce n'est pas pour 2-3 jours, non, ce sont des années, parce que avec cette crise, pour arriver à développer un relèvement de ces communautés, ça va demander beaucoup de temps. Voilà comment je peux répondre, mais également parce que vous avez pas
On vous suit. On a du mal à vous suivre, Passion Bachombe. Allô? On a du mal à vous suivre. Je crois que c'est un problème des réseaux. Après Chabunda, on va aller à Butembo, dans la province du Nord Kivu, pour écouter cet autre auditeur.
Je suis Josué Kakule Mutseke de Butembo. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de mettre fin à cette guerre. Au regard de la réalité des choses telles que les batailles se font, il y a lieu de constater que par les armes, on n'a pas réussi à mettre fin au conflit. Face à cette réalité, il est sage d'essayer d'autres approches telles que le dialogue en vue de régler ce conflit. Ouvrir les couloirs humanitaires dans une zone où les déplacés sont en mouvement, c'est une peine perdue. Pendant que le combat se poursuit, le nombre ne fera qu'augmenter, d'où la difficulté d'évaluer les besoins réels dans le cadre humanitaire.
Docteur Kapika, réaction.
Oui, madame, c'est comme j'ai dit. J'ai dit vraiment, mais vous me permettez que j'ouvre une parenthèse pour rebondir un peu sur ce que le secrétaire général a dit. Monsieur le secrétaire général, nous sommes un pays, un grand pays, qui subit cette crise humanitaire de l'Est depuis 30 ans, même un peu plus de 30 ans de cette guerre. Et dans les autres pays, ce que les gens font, c'est quoi? Vous devriez déjà avoir un plan de contingence pour cette crise. Un plan de contingence qui devait être déjà élaboré depuis longtemps. Et maintenant, on devait seulement l'activer. On active le plan, et voilà, tout est en marche. Mais ce n'est pas parce que maintenant il y a la grande crise, moi j'appelle ça catastrophe, hein, vraiment le mot crise mondiale. Moi je reste à mon terme, madame. Il y a cette catastrophe humanitaire, et maintenant nous commençons à chercher où ouvrir le couloir, comment faire, etc. Nous devrions déjà activer notre plan de contingence. Et ça, on devait l'avoir. Enfin, bref, je ferme la parenthèse. Oui, madame, donc, pour le couloir, c'est comme j'avais dit. Hein, le couloir, on ouvre. Je vous ai dit, le couloir, on doit l'ouvrir. Nous avons beaucoup de pays limitrophes. On n'a qu'à l'ouvrir en passant par Nairobi ou Bujumbura. On va facilement atteindre les villes Goma et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on préfère d'arrêter plutôt Nairobi et Kigali. Je ne sais pas quelles sont les raisons. Mais une fois de plus aussi, ça sera très compliqué avec cette assistance, avec ce couloir qu'on va ouvrir. Et je me répète, on va juste soulager ceux qui sont dans les hôpitaux à Goma, ceux qui sont dans les hôpitaux à Bukavu, éventuellement. Il sera très difficile d'intervenir sur le terrain. La seule façon que nous avons d'intervenir sur le terrain, c'est de déployer des humanitaires, des ONG nationales notamment. On descend, on arrive, on constate que dans chaque agglomération, les gens qui sont rentrés, et on amène de l'assistance. À la limite, on peut aller même avec des repas chauds ou préparer sur place avec eux. Tout le monde vient, on les sert à manger et nous inventorions. Nous causons, nous faisons l'enregistrement pour voir ils sont combien, ils viennent d'où, ceux qui ont fui, est-ce qu'il y en a qui sont morts en route, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, nous pouvons organiser l'assistance de cette façon-là. Il faut organiser de cette façon-là, avec des données précises, et cela peut servir maintenant aux autres humanitaires, comme l'autre secrétaire général demandait des chiffres. On peut générer des chiffres. Et ces chiffres-là vont directement servir à tous les humanitaires pour pouvoir intervenir. Voilà la façon. Mais la catastrophe réelle, ce n'est pas facile. Il ne nous sera pas du tout facile.
Orinker Banza qui nous suit depuis la ville de Likasi dans la province du Haut-Katanga. Cette mesure est salutaire pour nos frères et sœurs dans cette partie du pays. Nous saluons l'attitude de tous les camps car facilitant nécessairement ce couloir humanitaire important. J'appelle nos gouvernants à la bonne communication et bonne gestion de cette mesure salutaire. C'est cet auditeur, sur le point de vue de cet auditeur qui nous a écrit depuis la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle. Lui, il est dans quelle partie du pays? À Bukavu, au sud de Kivu.
Je suis Jules Maguené, je vous appelle depuis la ville de Kindu, au Maniema. Je pense que seule une approche globale, intégrée et coordonnée, axée sur la sécurité, l'accès humanitaire, la protection des infrastructures, la coordination internationale, les soutiens psychosociaux et de la sensibilisation peut répondre efficacement à cette crise humanitaire complexe et urgente. Une réponse collective impliquant bien entendu tous les secteurs concernés est indispensable pour atténuer les souffrances et restaurer un semblant de normalité dans la région orientale de la République démocratique du Congo.
Docteur Mboko, qu'est-ce que vous pensez de l'avis de cet auditeur qui nous a appelé plutôt depuis Kindu et non Bukavu?
Je crois que l'approche, c'est celle-là. Planifier avec tout le monde. Nous avons un plan qui est là, qu'on a réactivé depuis janvier, depuis décembre, pour lequel le gouvernement continue à travailler. C'est comme ça que j'ai dit que...
Plan de contingence.
Le plan existe, mais qui n'est pas bien connu. Vous voyez? Ça, c'est le premier. Maintenant, pour que on réussisse dans la mise en œuvre, il faut le gouvernement mettre autour de lui toutes les forces qui peuvent apporter quelque chose. Donc je suis tout à fait d'accord avec son approche en disant qu'il faut bien identifier les acteurs clés pour qu'ils apportent leur contribution.
Et quels seraient ces acteurs clés selon vous?
Nous avons le gouvernement et ses dépendants. Nous avons les agences des Nations Unies, les ONG internationales, les ONG locales et la société civile. Et le représentant des populations affectées.
Bernard Malumba, qui nous suit sur la page Facebook de Radio Okapi, pense que cette mesure est salutaire pour sauver la vie de nos compatriotes. Voilà. Merci à Polycarpe, qui nous suit depuis Mungwalu, dans le territoire de Djougou. Olivier Zigabe, pourquoi acheminer via les pays comme le Kenya et le Rwanda? C'est une question qui se pose. Hein. Docteur Kapika se pose aussi la même question. Quels sont les critères, pourquoi pas cheminer via le Rwanda et le Kenya? Beaucoup d'auditeurs reviennent sur cette question. Alors, docteur Bachombe Matabishi, le programme alimentaire a alerté sur la situation humanitaire préoccupante dans la partie est de la RDC, ce qui est exacerbé aussi par la scène des pillages, les scènes plutôt des pillages dont certains ont visé ces entrepôts à Goma il y a deux semaines et puis à Bukavu, c'était le week-end passé. Face à cette crise, les acteurs internationaux, y compris les Nations Unies, appellent à une mobilisation immédiate pour éviter une catastrophe humanitaire d'ampleur. Docteur Kapita estime que nous sommes déjà dans cette catastrophe humanitaire d'ampleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous sommes déjà dedans? Ou bien on peut l'éviter?
Madame, nous sommes déjà dedans parce que une catastrophe humanitaire, les signaux sont là. Il y a la brutalité qui a été en amont. Ça a mis tout le monde brusquement dans la rue, sur les routes. Et les gens, sans doute, mouraient chez mes faisants sur la route. Et on ne sait même pas quelle est la situation là où ils sont partis. Mais je vous dis, madame, ce qui est plus grave, c'est que quand les humanitaires vont se rendre dans ces zones-là, c'est là qu'on va sortir la plus catastrophique. Parce que moi, que l'assistance humanitaire arrive au bas, ça va arriver, bien sûr, mais l'assistance humanitaire ne va jamais remplacer la production que les paysans doivent aimer produire ou leurs travaux champêtres, ça ne va jamais remplacer ça. Les humanitaires vont les aider à produire. Hein, mais une assistance pour couvrir tout le monde, cela n'est pas possible. C'est pourquoi je dis, madame, ce que nous avons vu, c'est encore rien. Il y aura encore la catastrophe qui va continuer. Il y aura des gens qui vont mourir de faim. Il y aura des problèmes qui vont aller dans tous les sens. Et nous devons vraiment nous préparer à parler de la catastrophe. Comme le secrétaire général dit qu'ils ont un plan, je ne sais pas si c'est un plan de contingence, qu'ils mettent à la disposition de tout le monde, qu'on active ces points-là. Et que nous voyons comment nous pouvons sauver nos frères. Vraiment, ils sont dans la calvaire. Ceux qui sont à Bukavu, je vous dis, surtout ceux qui sont à l'intérieur, nous avons des bureaux là-bas. Je vous dis, madame, c'est vraiment de la catastrophe. Les gens souffrent, certainement. Voilà, je ne veux pas entrer dans les détails pourquoi, comment, tout le monde le sait. Mais en tout cas, nos frères souffrent. Nos frères souffrent très sérieusement.
Alors, au-delà de l'aide d'urgence, comment la communauté internationale peut-elle contribuer à résoudre les causes profondes de cette crise humanitaire à Goma et à Bukavu, docteur Kapika?
Oui, madame, j'espère que la communauté humanitaire va au moins être prompte et rapide pour l'assistance humanitaire, parce que pour assister les pays, moi je ne suis pas politicien, mais je n'ai rien vu. La RDC est abandonnée. Mais je pense que pour l'assistance humanitaire, ils seront là, ils vont promptement réagir. Le PAM est en train déjà de crier parce que tous ces stocks ont été pillés. Alors il faut donner des moyens au PAM pour reconstituer les stocks. Il faut donner des moyens à tous ceux qui étaient là-bas, notamment au HCR, qui a bas un travail énorme pour les déplacés internes et les demandeurs d'asile. Il faut donner des moyens à toutes les autres organisations, les ONG locales surtout, parce que moi, si j'étais au ministère des Affaires humanitaires, je devrais faire attention pour voir exactement qu'est-ce que font les ONG internationales aussi. Je ne suis pas vraiment contre, mais il faut bien étudier ce qu'ils font. Mais les ONG locales peuvent entrer partout où sont nos frères pour aller les acheter.
Merci, Dr. Augustin Kapika, directeur pays de l'ONG Action Communautaire pour le Développement Intégré et la Protection de l'Environnement. On va considérer cela comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Patient Bachombe, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
En tant qu'expert, quelles sont vos recommandations pour améliorer la réponse humanitaire à Goma et à Bukavu?
On l'a si bien dit, la précarité.
On a un gros souci avec votre ligne téléphonique, Passion. Allô? Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez mis main libre? Patient Bachombe, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a un souci avec sa ligne, la réalisation. On va essayer de le rappeler. Docteur Alain Boko, secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale, quels pourraient être les risques à court et à long terme si la crise humanitaire dans la ville de Goma et Bukavu n'est pas résolue rapidement?
Si la crise n'est pas résolue, on va compter des morts supplémentaires qui étaient pourtant évitables. Et à long terme, c'est un recul de développement avec la destruction de tous les investissements pour lesquels le pays avait consenti.
Dans le monde, devrait.
C'est comme ça que le gouvernement doit travailler avec toutes les parties prenantes pour éviter qu'il y ait l'enlisement de cette crise et la poursuite des actions nocives.
Toutes les parties prenantes, y compris ceux qui occupent les villes de Goma et de Bukavu?
Tout à fait. Parce que nous avons trois volets dans la lutte contre la guerre. Il y a le volet diplomatique, il y a le volet politiques qui doivent s'occuper des autres aspects auxquels nous ne faisons pas légitimement. Donc, vous voyez, la solution doit être trouvée parce qu'on a accepté le dialogue avec tous ceux qui peuvent, que chacun, ceux qui sont là de manière illégale se retirent. Ceux qui doivent travailler doivent reprendre leur travail pour que petit à petit on reconstruise. Le maître mot, c'est la reconstruction.
Merci, docteur Alain Bokoyeti. Est-ce que Passion Bashomba est en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Je dis en tant qu'expert, quelles sont vos recommandations pour améliorer la réponse humanitaire à Goma et à Bukavu?
Je crois qu'il faut vraiment une approche holistique qui soit bien coordonnée, parce que avec la précarité généralisée, que ce soit au Nord Kivu ou au Sud Kivu, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir à qui on peut venir en aide et à qui le laisser, parce que toute la population aujourd'hui est en train de vivre cette précarité. Il n'y a pas que les déplacés, il y a aussi toute la population qui manque de tous les moyens de subsistance aujourd'hui. Donc nous pensons qu'il faut identifier d'abord les vrais besoins de la population, des pouvoirs aussi au niveau national ici, au niveau de tous les partenaires, se rassurer d'un plan de contingence, parce que qui doit être actualisé et qui tient compte des réalités actualisées. Et c'est là que nous pensons que la société civile doit être mise en contribution pour ce faire. Aussi, je pense, comme le Congo, notre nation, s'est aussi mis sur la voie des dialogues et des négociations, il faut vraiment accélérer ces négociations et ces dialogues pour que l'on puisse aboutir à une convention ou un statement qui permettra à ce que les populations puissent accéder aux ressources normales afin de pouvoir vivre, n'est-ce pas, normalement, et que on ne parle plus de couloirs humanitaires, mais que la population puisse vaquer à ses occupations et relever son niveau, n'est-ce pas, et socio-économique.
Merci, Patient Bashombe, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté et Freddy Bikumbi qui l'ont réalisé. Billy Betou était à la mise en onde, derrière les caméras, Jonathan Fanani, Hervé Voka et Clément Chimanga, à la coordination Kelim Kouté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.